Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors aujourd'hui, je retrouve mon partenaire de toujours, Nico.
Yo tout le monde.
Et on va continuer sur notre principe de d'émission news, news débat d'actualité, avec toujours une partie sur les comics, une partie sur les mangas et une partie sur la pop culture. Bon, t'es prêt Nico pour cette petite émission?
Allez, on va y aller. Normalement, ça devrait être plus court. Quoique, à voir.
À voir. Et on va commencer maintenant par les comics. Et nous voici donc pour cette toute première partie d'émission où on va détailler quelques news comics. Et on va commencer par les droits de Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist qui revient à Marvel. Il me semble que le mois prochain, ça sera le tour de Daredevil qui reviendra aux droits de Marvel. Et c'est très bien, je trouve, surtout avec cette sortie de post-Covid, que les studios ont pris énormément de retard. On pourrait peut-être voir un Daredevil, pourquoi pas dans le prochain Spider-Man. Et pourquoi pas voir Iron Fist dans Shang-Li? T'en penses quoi, Nico? Ça fait plaisir ce genre de nouvelles ou tu t'emballais?
Bon, c'est toujours un plus déjà par rapport à la licence pour Marvel. C'est vrai que peut-être voir un petit Matt Murdock en tant qu'avocat ou autre, des choses comme ça pour Spider-Man 3 pourrait être sympa. Par rapport à tout ce qui peut se passer, après le reste, je sais pas, à voir. Mais c'est vrai que, à voir comment ils vont exploiter tout ça avec le temps, si ils vont plus repartir sur des séries un peu comme Netflix, ou vraiment faire film et tout, ou le mix des deux, ouais, comme ils sont en train de faire actuellement, avec par exemple toutes les séries qu'ils veulent lancer. À voir comment ils vont lancer le truc, mais en soi, je suis quand même confiance, ça fait plaisir. On se dit que peu à peu, l'univers qu'on connaît des comics pourra un peu ressortir à l'écran, même si ce sera jamais réellement la même chose. Mais bon, c'est toujours cool de pouvoir revoir des héros du coup, et de les voir vivre. Et puis, pour le coup, voir des héros qui peuvent croiser et qu'avant, ils ne pouvaient pas croiser.
Et ouais, surtout que la plupart des héros gravitent autour de New York. Et c'est con de ne pas parler de Hell's Kitchen et de Harlem, hein, parce qu'ils ne parlent pas vraiment de Harlem. Et c'est assez dommage de louper tout ce pont de New York.
Ah oui, complètement.
Bon, bah écoute, après cette petite news, je te laisse la parole.
Alors, moi, à partir d'un event, tout simplement, Marvel nous a teasé l'event depuis un petit moment, King in Black. L'événement doit arriver donc pour septembre. Et alors, en fait, tout simplement, King in Black, qu'est-ce que c'est? Eh bien, après un super event, donc Absolute Carnage, que nous a donné Donny Cates, après la révélation de Knull dans le tout premier TPB, donc le tout premier volume de Venom, King in Black, ça va justement être l'arrivée normalement de Knull sur Terre et ça promet de pas mal bastonner. Parce qu'on a vu Kate s'y met Knull un peu partout, on a des références dans tous les sens. C'est un peu le big personnage actuel de Marvel. Donc c'est complètement con parce que quand on sait qu'avec le Marvel 1000, ils ont teasé d'autres trucs et on en a toujours pas vu la couleur quasiment, mais Knull arrive lui vraiment en décembre. Et surtout, Marvel nous a donné à peu près les tie-ins qu'on allait avoir. Donc on va les retrouver donc sur Namor, Immortal Hulk, Black Cat, Spider-Woman, et il y a encore une autre série, je crois que c'est Iron Man et Doctor Doom. Mais en tout cas, déjà, c'est un event, Kate nous a fait plaisir avec Absolute Carnage, donc je pense que pour King in Black, on va juste s'éclater.
Et à ton avis, c'est là où on va trouver ce nouveau dieu cosmique également? Ça sera dans cet event?
Sans doute, je pense que oui. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est réellement dieu cosmique ou autre, parce qu'en plus, on nous a teasé récemment avec les dessins qu'on allait avoir le retour de Sentry. Et donc, est-ce que ce serait pas Sentry, justement, ce nouvel adversaire pour Knull? Je ne sais pas, mais il y a peut-être des chances.
Et ouais, mais par contre, tu vois, les tie-ins que tu as annoncés, c'est surprenant, quoi. Je ne m'attendais pas à voir un Knull dans du Spider-Woman, quoi. C'est assez cool.
Bah encore Spider-Woman, avec le côté araignée, on peut comprendre Black Cat ou Namor. J'avoue que j'étais vraiment surpris.
Imagine, Knull contre Namor, en plein
ouais,
milieu de
non,
New York.
Mais je pense que ça a affronté des symbiotes ou des trucs comme ça. Ça n'a pas vraiment affronté Knull. Parce que sinon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de morts, en fait, et ce sera un peu la fin de l'ère Marvel.
Il est si puissant que ça, tu trouves, Knull? Parce que bon, je l'ai vu dans le premier TPB. Mais bon, il a fui quand même assez rapidement. Donc, Namor, qui est quand même un demi-dieu, ça devrait le faire.
Ouais, il faut rappeler quand même que Knull, à sa création, il a blessé des Célestes quand même. Ah ouais. Je ne sais pas donner à n'importe qui. Donc, je pense que oui, il peut les défoncer.
D'accord. Ouais, mais je le voyais pas comme ça, mais bon, ok, pourquoi pas.
Ah, mais c'est vrai que ça, c'est un personnage assez mystérieux, assez étrange, ouais, parce qu'il est à la fois super puissant, dieu, mais en même temps, c'est pas grand-chose non plus sur tout ce qui est.
Ok. Bon, je vais vite fait reprendre la parole pour une petite news qui est sortie lors de la deuxième partie de la DC Fandom. Je ne vais pas revenir sur la DC Fandom parce qu'on en a parlé en long et en large et en travers sur la saison première du débat comics. Et là, donc, il y a eu la deuxième partie. Bon, encore une fois, pour moi, beaucoup trop de news télé, séries et compagnie parce qu'on s'en bat un peu les couilles. On oublie un peu que les comics, à la base, c'est des bouquins. Mais il y a une news qui m'a fait plaisir. C'est une information qui vient directement du chef créatif Jim Lee qui a dit qu'ils allaient toujours continuer à publier des séries donc dans la Terre 1, le Earth One, et par contre ils ne sont pas super réguliers, tout simplement parce qu'ils préfèrent prendre le temps pour trouver une bonne équipe créative au top, comme il le dit. Et qu'ils préfèrent également finir certaines séries, dont par exemple le tome 3 de Batman, scénarisé par Geoff Johns et c'est dessiné par Gary Franks. Et il est quasiment complet. Il manque juste quelques petits détails avant qu'il puisse lancer la date pour l'imprimerie, donc ça devrait pas trop tarder à arriver. Ça, c'est une news qui me fait plaisir malgré tous ces déboires et tous ces manques d'informations sur les comics pendant la DC Fandom. Tu les avais bien aimés, les Batman Terre 1, je crois que je te les avais prêtés, non?
Il y a des chances, j'en ai plus souvenir, mais peut-être que oui. Là, comme ça, j'ai. J'ai pas de mémoire et là comme ça je pourrais plus te dire, mais il me semble que c'est ça que j'avais aimé, oui.
Et qu'est-ce que tu trouves de cette idée, donc quand même de garder cet univers de Terre 1 pour sortir des bons comics de temps en temps?
Ah, moi je trouve ça pas mal, et même le fait, c'est un pari risqué, mais le fait de dire qu'ils prennent leur temps pour justement recruter comme il faut, trouver les bonnes personnes, c'est en tant que fan quelque chose de très bien, parce que pour une fois que justement on ne te précipite pas à sortir plein de trucs un peu comme Marvel où tu as des séries qui sont jetables et d'autres qui sont bien, donc là tu te dis s'ils prennent vraiment le temps, c'est une très bonne chose. Par contre, c'est vrai que côté finance, tu te dis pour DC, je ne sais pas ce que ça va donner de devoir attendre avant de sortir des choses pour vraiment prendre le temps, mais pour moi c'est une bonne chose, franchement c'est une très bonne chose, et justement des fois rester sur ce qu'on connaît, sur des trucs qui étaient déjà très bien et continuer ça peut être une très bonne chose aussi.
Alors, pour information, le premier tome de Earth One, du côté de Batman en tout cas, date de 2012.
Ouais.
Ouais. Faut le dire.
Ils prennent le temps.
Un peu trop, peut-être. Nico, je te laisse ta dernière news.
Ouais, alors on va rester côté DC parce qu'on a appris récemment donc, que Bendis allait arrêter donc, son run sur Superman. Il quittera donc les aventures de Man of Steel. Apparemment, donc par exemple, ses derniers numéros et son dernier numéro sera dans le Superman 28. Et par contre, chose est sûre, en tout cas, c'est que Bendis reste toujours côté DC, mais on n'a pas trop d'informations sur ses futurs projets. Donc, à voir s'il va reprendre les aventures d'un autre héros, une équipe. On n'en sait pas plus de ce que j'ai vu, on ne sait pas grand-chose, mais en tout cas, il arrête de faire Superman. Bonne chose, mauvaise chose. Perso, pour moi, je sais pas, j'ai pas lu son run par rapport à Superman, mais vu ce qu'il faisait des fois sur Marvel, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. T'en penses quoi, toi?
C'est compliqué, Bendis, il a fait énormément de choses de bien, mais aussi énormément de merde, et j'ai l'impression que c'est sur les longs runs qu'il fait de plus en plus de merde.
Ah, mais c'est compliqué à tenir, Ah ben moi, par exemple, si je prends le Bendis du Gardien de la Galaxie, il y avait du très bon comme du très mauvais. C'est lui qui avait amené justement le système avec les symbiotes, qui étaient les Clintars, la planète des Clintars et tout ça, qui après était développé par Cates pour donner l'origine avec Nul et tout. Mais c'est lui qui a eu cette idée, c'était vraiment très bien, il y avait des bonnes choses. Mais aussi, on a eu des trucs très très moyens quand même côté Guardian. Donc, c'est vrai que c'est. Je suis assez souvent mitigé avec Bendis.
Après, tu vois, ce qui est... honnêtement, quand j'ai cru qu'il allait arrêter Superman, je pensais qu'il allait casser le contrat avec DC. En tout cas, le contrat d'exclusivité, qu'il puisse se retrouver chez DC, chez Marvel et faire un peu ce qu'il veut.
Ouais. Ben, ouais. Normalement, en tout cas, de ce qui est dit, il devrait rester chez DC, ça c'est sûr.
Ouais, ben c'est assez triste. Bon, faut pas dire les choses comme ça, mais bon, c'est surprenant.
Oui.
Bon, et sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie comics et on se retrouve tout de suite pour la partie manga. Et on se retrouve pour cette deuxième partie de l'émission. Toujours avec Nico et on va parler de manga et je vais parler de manga parce que Nico n'a pas trouvé de news croustillante sur les mangas et je vais commencer par vous parler du tout nouvel éditeur qui sort en France, enfin qui va sortir fin novembre en France. Je vais vous parler de Noev je sais pas comment le prononcer, c'est pas grave. Donc, à savoir que les éditions Noev, c'est pas tout nouveau, hein, parce que c'est déjà un éditeur qui existait depuis un petit moment. Mais ils se sont lancés en 2018 dans la commercialisation de livres d'art photographique et de livres objets. Et en fait, leur objectif maintenant, c'est de. Ben, ils ont créé une sous-édition, je sais plus comment il y a un terme, mais je vais au bout de la longue, mais j'arrive pas à la voir. Donc ils ont décidé de sortir un label, voilà, j'ai réussi à retrouver le mot. Ils ont décidé de lancer un label qui sera réservé au manga et également au livre d'illustration. Là encore une fois, je cherchais mes mots. Et par contre, à savoir que donc pour les livres d'illustration, ils ne vont pas partir sur des livres d'illustration japonais qu'ils vont traduire. Ça va être vraiment du fait main, comme eux savent le faire. J'ai pu en discuter avec mon libraire. Côté manga, le week-end dernier, il m'a dit que les bouquins allaient être juste sublimes et qu'il allait craquer sur 3 artbooks, si ce n'est pas plus. Donc voilà. Pour vous donner quelques idées au niveau des choses qui vont sortir, il y a quelques tarifs. Leur première sortie va être le manga Veil, qui va parler donc d'un couple. Dans le couple, il y aura une personne qui aura des problèmes de cécité. La série sera en deux volumes et ils sortent les deux volumes le 27 novembre. Le volume est à 12,90 et donc le coffret est à 24,90 et le manga sera en couleur. C'est la petite chose inédite comme ça qui arrive. Alors j'essaierai de mettre quelques images sur Instagram, sur Twitter et compagnie, mais les graphismes en couleur sont surprenants et ça me paraît quand même assez intéressant. Toujours le 27 novembre, ils vont sortir un troisième manga qui s'appelle Space Up. Et c'est une histoire de space opéra où en fait on va suivre c'est une toute nouvelle aventure spatiale faite de voyages interplanétaires, de robots, de mécanique rétro où les machines peuvent encore être réparées par des mains humaines. Et afin ça va nous offrir également de magnifiques poursuites en vaisseaux spatiaux. Je suis fan d'Albator, je suis fan de Space Up. Personnellement, je fonce. Ce manga sera en noir et blanc. Et le tarif sera toujours de 7,95 €. Après, nous allons retrouver de nouveau Noev, mais qu'en 2021, fin février 2021 pour être précis, avec le deuxième volume de Space Up, mais surtout, ça je l'attends avec grande impatience, les deux premiers volumes de Rent a Girlfriend. Et en fait, Friend to Girlfriend, c'est l'histoire de Kazuya qui s'est fait larguer par sa petite amie et qui a décidé d'aller voir ailleurs, essayer de se reconstruire. Et pour ça, il décide de se louer une petite amie. Et puis après, ben, ça part en un thème un peu harem et qui, et c'est tout ce que j'aime lire en manga. À savoir que c'est quand même le troisième des ventes au Japon en août 2020 et la série a été popularisée par l'animé qui sort actuellement sur ADN. Vous avez un épisode chaque vendredi. L'animé fera que 12 épisodes. Le manga est actuellement à 18 tomes au Japon et ça continue toujours. Donc voilà, je pense que c'est avec ça que Noev tient, on va dire, sa grosse série. Et voilà. Par contre, c'est vrai que vu que ça sort fin février, j'ai peur que le soufflet descende un peu parce que l'animé sera terminé en France depuis belle lurette. Et après, il va y avoir également Miss Nagatoro qui va sortir toujours le 26 février 2021. Et Nagatoro est une lycéenne de première année dotée d'un caractère très moqueur et légèrement cruel dont le passe-temps favori est de martyriser son senpai chaque jour. Et ça, encore une fois, j'achète. C'est totalement ce genre de choses que j'aime lire et ça va me détendre. Le tarif est toujours à 7,95 €. Toujours le 26 février, on va tomber sur A Brief History of Robo Sapiens. Donc, c'est un coffret en deux volumes, un peu comme on va retrouver Veil, sauf que là, ça sera du noir et blanc. Et voilà, donc c'est un manga un peu au style épuré, dessiné par Osamu Tezuka. C'est le papa d'Astro Boy quand même. Donc c'est pas n'importe quoi, mais voilà, c'est pas parce que c'est le papa d'Astro Boy que je vais forcément acheter. J'hésiterai à savoir que le manga sera en deux volumes et encore une fois on pourra acheter les deux volumes en un seul coffret le jour même. Le tome est à 7,95 €, le coffret est à 15,90 €. Et après, ben, ils vont sortir, comme je disais, des artbooks, donc des artbooks originaux qui seront propres à Noev, à savoir qu'ils font les artbooks avec l'accord des dessinateurs au Japon. Donc on va vraiment avoir un produit complètement unique franco-français et ça risque de coter super bien que ce soit en France, au Japon et peut-être même aux États-Unis parce que le manga devient de plus en plus populaire aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne les artbooks, on va avoir un artbook sur Mitsume. Le tarif est de 40 €, à savoir qu'ils vont sortir à chaque fois une version collector. Donc, la version collector sera à 149 €, mais limitée, il me semble, à 300 exemplaires, numérotés et signés par l'artiste. Il donne encore plus envie de l'avoir. Il va y avoir également Oyari Ashito. Donc toujours le même principe, 40 € pour l'édition classique et 150 € pour la version collector de luxe. Il va y avoir Apapico également, donc toujours le même principe au niveau tarif. Et il va y avoir également Toby Hachi, donc toujours le même principe. À savoir que les artbooks que je viens de citer sortira pour le moment entre le 27 octobre et le 27 novembre, et j'oublie également d'autres artbooks, donc avec Takuya Kishi, donc encore une fois le même principe, collector et pas collector, et Mayumi Kono, donc voilà, c'est que ça soit Takuya Kishi et Mayumi Kono, cela sortira le 11 décembre, et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Noev. Nico, t'achètes?
Alors peut-être Rent a Girlfriend. Maintenant que tu m'as dit, je savais même pas ADN en ce moment, je regarde plus trop, mais que tu m'as dit que c'était sur ADN, je vais sans doute regarder pour voir, et si je kiffe, je pense que je vais prendre le manga. De tout ce qui vont sortir, c'est celui qui pourrait le plus m'intéresser pour le moment.
Ah, je pensais que tu allais peut-être craquer sur Spéop également.
Ouais, non, mais de toute façon j'ai déjà trop de mangas. Peut-être je verrai au moment de la sortie. Je verrai. Par rapport au... Ouais, je sais que Rent a Girlfriend ou peut-être Miss Nagatoro, qui, je sais pas. Je veux tenter peut-être sur les premiers tomes, je verrai, mais au moins Rent a Girlfriend, ça, je verrai, c'est sûr.
Et pareil, le principe de faire des artbooks édition limitée et que ça soit pas du copier-coller avec la version Nippon, comment tu trouves ça?
Bah déjà, de fait de pas copier, de faire un peu à sa manière, c'est sympa. Après, en soi, je suis pas artbook, alors... mais bon, c'est... Mais sinon, non, déjà, le fait de vouloir changer des choses, peut-être en mettre un peu plus, ou de vouloir créer une atmosphère avec le artbook et tout ça, que juste mettre peut-être les dessins et tout, ça peut être intéressant. Après, à voir ce que ça donnera au final, même si je suis pas fan... Si toi t'en prends un, que tu feuillettes ou autre, à voir ce que ça donnera quand même sur la version finale.
C'est vrai que ça me tente un peu d'en prendre un ou deux pour garder l'œuvre et pourquoi pas même, tu vois, me tâter sur l'édition à 150 euros, mais dédicacée, quoi. Ouais, oui. Mais tu me connais, j'aime bien avoir des choses un peu limitées dans ma bibliothèque.
Oui, je sais. Je le sais que trop bien.
Et...
Ah, c'est bien, si tu dépenses 150 balles pour ça, tu pourras pas t'acheter des mangas et je pourrais être rattrapé.
Ça va, j'ai que 556 mangas avec celle de ma femme.
Oui, voilà, j'en ai 200 juste.
Ça va, tu vois, il y a encore un peu de marge.
Oui.
Par contre, tu vois, la question que je me suis posée, et j'aimerais bien avoir ton avis, est-ce qu'à force on n'arrive pas à boucher les éditeurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours de nouvelles séries, de nouveaux éditeurs, et qu'on est un peu bouché, quoi. J'ai peur que ça soit peut-être, tu sais, l'éditeur en trop.
Ah ben ça, de toute façon, pour essayer de marcher un peu, il faut toujours voir les licences phares, tu vois, comme Kiyun qui a eu le grand côté, bon, avec pas mal de choses qu'ils avaient eues, puis maintenant les My Hero, même s'ils sortent énormément de choses actuellement et tout. C'est vrai qu'on a, depuis quelques temps, en manga, de toute façon, comme on l'a vu en comics, ou côté comics, on a eu pas mal d'éditeurs qui arrivaient avec, en plus, beaucoup de comics indé. Sauf que, bon, contrairement au manga, les comics indé, c'est quand même moins prenant, moins connu que les comics Marvel d'ici. Donc déjà, la part de marché était un peu niquée. Et quand on voit, justement, une bonne partie fait des crowdfunding pour sortir leurs comics, donc on voit déjà côté comics, c'était la galère. Et côté manga, je sais pas, par rapport aux licences peut-être qu'ils vont posséder. J'avoue que les artbooks, faire des gros artbooks dès le départ à 40 et 150 balles, c'est un peu le pari risqué sur le fait que ça va prendre ou ça va pas prendre. Mais côté manga, s'ils ont une ou deux licences phares qui peuvent bien marcher, ça peut être la bonne chose. Après, faire des trucs comme les... mince, alors attends, je vais essayer de retrouver le nom. Tac, je l'ai là. Le Brief History of Robo Sapiens, qui est juste en deux tomes, tu vois. Miser ça sur deux tomes, si ça marche pas, ça sera pas le gros beat pour et tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs. Après, les mangas sont moins chers. Contrairement aux comics, bah, les mangas, on a un peu de tous les styles en soi. Donc, ça peut avoir une chance de persister. Mais c'est vrai que plus ça va... Plus ça va être compliqué en France. C'est vrai que si on nous sort encore d'autres éditeurs, à part s'ils ont des grosses licences, ça va être très compliqué pour survivre. Quoi.
Écoute, je poserai toutes ces questions à Noël parce qu'on va les avoir en interview courant novembre avant leur sortie de leurs deux premiers mangas. Et je poserai la question sans aucun problème. Ah putain, j'ai l'impression de faire du Jean-Jacques Bourdin alors, en utilisant un peu les choses comme ça. Et la deuxième news que je voulais aborder ce soir, c'est tout frais, hein, ça date du moment où on a tourné, donc de mardi, mais bon, ça reste quand même assez frais. C'est que depuis le 2 septembre, Wide Bunch est le distributeur salle vidéo et TV en France des films du studio Ghibli. Ce n'est plus Disney. Donc voilà, à savoir que ça faisait depuis 1996 que Disney possédait l'exclusivité des droits de distribution des films Ghibli en France, hormis le Tombeau des Lucioles, qui est distribué par Kazé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Et ils seront également le distributeur du prochain film d'animation qui est Aya et la sorcière, réalisé par Gorō Miyazaki, et qui était en sélection officielle du Festival de Cannes en 2020 et que la sortie prévue est pour 2021. Donc voilà. Qu'est-ce que ça te fait? Peut-être qu'on aura les studios Ghibli un peu plus en avant. T'en penses quoi?
J'en sais rien. Alors, honnêtement, je sais pas. Bah, déjà, ouais, je suis pas sûr qu'on puisse les avoir un peu plus en avance et compagnie, parce que bah, il y a toujours la législation et tout ça, mais peut-être que ça permettra d'avoir des nouveaux coffrets collecteurs ou des trucs comme ça qu'on n'avait pas avant. Donc ça peut être une bonne chose. Et puis déjà, de toute façon, ils sont sur une licence phare, donc forcément ça va marcher.
Donc, à savoir que Ghibli, quand même, pour ceux qui ont vécu dans une grotte, ils ont sorti leur premier film en 1984 avec Nausicaa de la Vallée du Vent. Après, il y a eu Le Château dans le Ciel, Mon Voisin Totoro, Kiki et la Petite Sorcière, Souvenir Goutte à Goutte, Porco Rosso, Je peux entendre l'océan, Pompoko, Si tu tends l'oreille, Princesse Mononoke, Mes voisins les Yamada, Le Voyage de Chihiro, Le Royaume des Chats, Le Château ambulant, Les Contes de Terre et Mer, Ponyo sur la falaise, Arrietty et Le Petit Monde des Chapardeurs, La Colline aux Coquelicots, Le Vent se lève, Le Conte de la Princesse Kaguya et Souvenir de Marnie. Donc voilà, il y a pas mal de films. Et ouais, par contre, tu vois, comme tu disais, on aura peut-être plus de coffrets collecteurs, mais moi, je pense peut-être qu'on aura des films peut-être mis plus en avant sur la télévision. Peut-être que Disney, tu sais, voulait se garder leur monopole sans trop distribuer d'animés.
Ouais, je sais pas, oui. Je sais que bah, déjà, en tout cas, les Ghibli sont tous sur Netflix. Mais par rapport côté télévision, je sais pas. Je sais pas parce que ouais, les Disney ont le monopole un peu et les Ghibli, c'est sûr qu'on les voit quasiment pas. Bien qu'à une période, je crois qu'ils en avaient mis certaines fois, mais c'est très rare.
Ah, c'est le Voyage de Chihiro que tu vois souvent, quoi.
Ah, c'est ça.
En même temps, il avait gagné l'Oscar du meilleur film d'animation et un Ours d'or en Allemagne. C'est peut-être pour ça qu'on le voit un peu plus souvent que les autres. En parlant des Ghibli comme ça, quel est ton film favori, par curiosité?
Il y a très longtemps, quand j'étais gamin, je t'aurais dit sans doute Princesse Mononoke, ou sinon j'aurais dit Un Voyage de Chihiro. Mais j'étais plus Mononoke quand j'étais gosse, mais maintenant je l'ai vu et je surkiffe, c'est Porco Rosso.
J'étais à peu près sûr que tu allais me sortir ce titre-là, bizarrement. Et ouais, non, moi, tu vois, moi, tout gamin, c'est toujours. Alors, j'ai jamais vu Princesse Mononoke, il faut que je me regarde sur Netflix.
Oh, oh là là, ah oui, il faut que tu mates ça.
Ouais, shame on me, je sais. Par contre, tu vois, un de mes préférés, c'est un Ghibli, mais non distribué, c'était Le Tombeau des Lucioles.
Oui, mais non, ça, on ne parle pas de ce film.
Pourquoi?
C'est parce que c'est quand tu connais l'histoire, tu veux chialer à chaque fois qu'on t'en parle.
Ben oui, mais bon, c'est tellement bien. Et après, tu vois, c'est Le Voyage de Chihiro. Et dernièrement, ma femme a acheté le DVD dernièrement. C'est Nausicaa que j'ai découvert, que j'ai bien kiffé. Et d'ailleurs...
Faudrait que je le re-regarde parce que j'ai plus de souvenirs.
Après, bon, c'est très Miyazaki, hein, donc ça parle beaucoup d'écologie et compagnie. Et à savoir que Nausicaa est sorti chez Glénat en 7 volumes et en grande édition. Et que je vais me les lire. Parce que j'ai mes atouts, je vais en profiter pour les lire. Ça, c'est un tout son petit pub.
Et après, autre film Ghibli vraiment bien que j'avais adoré de base, c'était Arrietty et le Petit Monde des Chapardeurs. Le film est super bien et surtout, on a la chance d'avoir une OST magnifique. Made in France, parce que c'est Cécile Corbin qui fait donc l'OST, la plupart des musiques, des chants et tout. Et c'est juste magnifique et c'était une de mes OST préférées.
Et je ne l'ai pas vu. Je ne les ai pas tous vus.
Je ne les ai pas tous vus non plus, mais celui-là, je t'invite à regarder, il est vraiment sympa.
D'accord. Écoute, je pense que sur ce, on va peut-être passer sur la dernière partie. Et nous voici donc pour la toute dernière partie de ce podcast où on revient un peu sur la pop culture. Et c'est comme les mangas, quoi. C'est quand même une semaine assez creuse au niveau des news. Mais aujourd'hui, c'est au moment où on tourne le podcast, donc le 15 septembre, on a eu l'arrivée enfin du trailer de la saison 2 de Mandalorian qui sort d'ici un mois. Et ah, ça me donne toujours autant la hype et ça me fait toujours aussi plaisir. Nico, tu l'as vu ?
Non, je me garde un peu la surprise.
Ah, d'accord, tu te gardes un peu la surprise. Alors, grosso modo, ce trailer m'a redonné la hype, parce que moi, je suis fan de Star Wars.
Comment tu peux ne pas avoir la hype avec The Mandalorian, vu la première saison ?
Ouais, mais si tu veux... Alors, laisse-moi finir. Tu vois, elle m'a redonné la hype, mais elle m'a fait redescendre légèrement la hype après l'avoir vue, parce que en tant que fan, et après tout ce qu'on m'a annoncé, je m'attendais à voir un peu plus de choses qui allaient me faire plaisir, me faire vibrer. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, je ressens... si tu veux, c'est comme si on te disait, tiens, on va faire un petit gong-bong avec pas mal de nanas. Et que finalement, une fois que tu as vu les nanas, ta hype a légèrement descendu.
Merci pour l'image. Je t'en remercie pas. Mais je vois.
Donc, non, c'est... Alors, forcément, je parle d'hommes, mais on peut aussi inverser les choses. Hein, mais bon, en tant qu'homme, moi, je ne suis pas gay. Enfin, bref, je m'égare un peu. Mais si tu veux, je m'attendais tellement de choses au niveau de cette saison 2. On nous parle d'Ahsoka.
C'est parle un thriller de... après.
Ouais, mais on nous parle de Boba Fett, on nous parle du sabre noir qui sera au cœur de l'action. Et si tu veux, je m'attendais à voir furtivement peut-être une image d'Ahsoka, de Boba, voire même du sabre noir avec le Moff Gideon. Et même pas, j'ai pas eu le droit à voir ça. Mais voilà, j'ai eu le droit de voir beaucoup de Baby Yoda.
Bébé Yoda, c'était un peu la mascotte, donc logique qu'on l'ait.
Ouais, c'est pas faux. Bon, toi, t'as la hype pour cette saison 2, qu'est-ce que tu attends, toi?
Ben, moi, j'ai pas regardé.
Moins initié que moi.
J'ai forcément la hype, après. Je les laisse faire, hein, moi, quand on dit qu'il y a Ahsoka, quand on dit qu'il y aura Boba ou des choses comme ça, ou qu'ils y sont pas, j'attends juste de voir ce qu'ils vont faire. Hein. Parce qu'après, ce qui était sympa, c'est que la première saison était assez déconnectée de tout. Et c'est comme ça qu'on a bien kiffé. Et je pense que le fait, un peu comme l'effet Joker, de vouloir re-rapprocher en mettant des choses célèbres ou autres, ça va peut-être niquer le truc en se disant on pensait, on imaginait beaucoup de choses qui ne sont pas passées et on va être déçus. Je pense que s'ils font comme Joker, ou Joker, ils ont trop cherché à leur attacher à l'univers DC, à l'univers Batman et tout. Alors que si tu parles pas des Wayne et compagnie, le film aurait pu être très très bien. Et donc, c'est ça. Je pense que ils nous annoncent des trucs, comme tu as dit, ben, au cas où, s'ils respectent pas ou s'ils respectent les trucs, mais pas comme on l'attend, ça va être décevant. Donc, je sais pas, moi j'ai la hype en soi, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'ils ont annoncé, je vais voir, je m'attends à rien. Au moins, comme ça, je suis sûr de pas être déçu.
Et tu as commencé à rattraper ton retard sur The Clone Wars et compagnie?
Oui, j'ai vu 4 épisodes de la saison 1 de The Clone Wars et j'ai arrêté. Non, j'ai trop de choses à regarder, mais il faudrait que je le fasse, c'est sûr.
Bon, Fizzon, t'as un mois pour rusher Clone Wars et Rebels.
Ouais, non, mais là, je suis actuellement sur une chose beaucoup plus importante, Hero Corp.
Attends, avec tout ce que tu as, tout ce qui sort actuellement, que ce soit Lucifer, The Boys, tu regardes Hero Corp. Non, mais...
Ben, meilleure, une des meilleures séries françaises, je suis désolé.
Et ouais, non, mais c'est une des meilleures, mais bon...
The Boys, j'ai regardé le premier épisode, ou les deux premiers, me semble. Donc après, il faut que je remette un peu à jour, mais vu que tous les épisodes ne sortent pas d'un coup, voilà. Et Lucifer, j'avoue que déjà, la dernière saison, j'ai devait arrêter à moitié.
D'accord. Bon, moi, j'ai pas encore regardé Lucifer, hein. Je te dis ça, mais je te dis rien.
Ah, bravo.
Ouais, je sais. Et après cette news de fracassante, je te laisse... la parole pour ta news.
Alors, bon, moi je vais vous faire la France par rapport à la PS5. On nous a annoncé le package qui aura, donc le contenu du package de la PS5. Et je ne vais pas être con, je ne vais pas vous prendre pour des cons, je ne vais pas vous dire, alors il y aura le câble d'alimentation, il y aura une manette, il y aura aussi le câble HDMI. Bon, voilà, tout ça, on s'en fout, c'est le packaging de base. Le truc très intéressant, surtout, c'est qu'on va avoir un jeu préinstallé sur la PS5. Et ce jeu, ce sera Astro Playroom. Et alors, de ce que j'ai pu voir du jeu, en fait, ça va être une sorte de jeu d'aventure en open world, un peu style Mario Galaxy. On va se balader sur une carte, sur je ne sais pas si c'est des planètes voilà, ou des plans en soi. Et donc, ça, on va avoir un personnage robot avec, dans un décor un peu mignon, un peu sympathique. Donc voilà, ce sera le jeu. Vu que le jeu, je ne crois pas qu'il existe encore, et donc ce sera juste pour la PS5, on n'a eu que des images. Ça peut être sympathique, mais bon, je pense que quand on achètera la PS5, on voudra surtout donc jouer aux jeux qui sortiront. Mais voilà, c'était l'info du jour que j'ai vue, et ça me paraissait étrange. C'est vrai que d'avoir un jeu préinstallé sur les anciennes versions, ce n'était pas ça. Donc c'est vrai que, pour quelles raisons ils ont fait ça? Peut-être qu'au moment d'initialiser le truc, le temps que tout s'installe, ça va être long, et qu'ils se sont dit, mettre un truc préinstallé en attendant pour patienter peut être sympa, je ne sais pas. Donc c'est peut-être un mauvais présage qu'on a un jeu préinstallé sur la PS5. L'autre question, et j'espère qu'ils ne sont pas cons à ce point, j'espère qu'on pourra le désinstaller, hein, parce que si on fait comme des fois certains smartphones, où tu as des applications, tu n'en veux pas, mais tu ne peux pas les désinstaller, ça te bouffe de la mémoire et tout ça pour rien, donc j'espère qu'on pourra l'enlever aussi. Donc, à voir ce que ça va donner.
Et alors, honnêtement, cette info me fait un peu ni chaud ni froid, je suis désolé de te dire ça, moi, personnellement, tu vois, tu me parles de PS5, je suis totalement d'accord avec toi, il me tarde d'avoir des news, et on devrait en parler, à mon avis, le week-end, enfin, la semaine prochaine, parce que le 16, il y aura le 16, donc demain, au moment où on tourne le podcast, mais ça sera déjà sorti, il y aura la grosse conférence de la PS5, où on devrait avoir plus de nouvelles sur le tarif, sur les jeux en exclusivité, surtout qu'ils nous avaient annoncé au taquet de jeux exclusifs PS5 au moment du lancement. Et voilà, je suis désolé, mais non, je préfère en discuter PS5 la semaine prochaine, qu'on aura des vraies news. Tu m'en veux pas?
Non, t'inquiète.
Et ouais, après, je sais pas, tu vois, c'est des petits jeux comme ça. Après, tu vois, il y a plein de petits jeux qui sont intéressants, comme Little Big Planet qui était bien réussi ou pas, mais bon, vu que c'est gratuit et inclus dans la PS5, je suis pas sûr que ça soit si ouf que ça. Je sais pas,
vu que ouais, c'est un nouveau jeu, un truc comme ça, on se rendra bien compte quand ça sortira. De toute façon, on est tous d'accord que ce jeu, il fera pas long feu sur le fait qu'on va tous acheter le truc pour avoir les jeux qu'on achètera en même temps, quoi. Parce qu'on aura toujours le package avec un jeu offert ou un truc comme ça, et donc on jouera au jeu qu'on aura acheté.
C'est ça. Je pense que ça se passera plus comme ça, malheureusement. Et voilà. Allez, moi, ma dernière news de la journée, que je dise pas n'importe quoi, je vais rester dans l'univers des jeux vidéo, parce que la semaine dernière, il y a eu l'Ubisoft Forward, donc qui était la grosse conférence de rentrée Ubisoft, qui devait nous parler des nouvelles licences et compagnie. Et alors, je crois que ça fait un léger bide ou pas, peut-être parce que il y a eu quelques tourmentes estivales avec les affaires MeToo et compagnie, mais voilà. En ce qui concerne les jeux, ils nous ont annoncé Immortals Fenyx Rising, donc ils nous l'ont présenté avec une bonne annonce. Anciennement, le titre devait s'appeler Gods and Monsters, et on suit la peau d'une demi-déesse qui s'appelle Fenyx, qui évolue dans un univers entre God of War et les Chevaliers du Zodiac. C'est un jeu action RPG, et voilà, ça sera un monde ouvert et qui sera narré quand même, et ça me fait bien plaisir, par un certain Lionel Astier.
Oh.
Et ah oui, oh, ça tu peux le dire. Donc, toi qui parlais des records il y a quelques minutes, ouais. Ouais, tu peux le dire. Et il doublera pour la première fois un personnage de jeu vidéo. Et il doublera Zeus. Donc voilà, ça c'est le petit truc qui me fait, oh oui, pourquoi pas. Ça sortira sur le 3 décembre sur Google Stadia, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch. Sur PC via l'Epic Games Store ou via l'Ubisoft Store ainsi que Uplay Plus. Ils nous ont annoncé un remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps. Bon, next. Non, quand même, je vais vous dire, le jeu sortira le 21 janvier pour 40€ sur PS4, Xbox One et PC. Il n'y a pas eu d'annonce sur la next gen, donc next. Ils ont annoncé après The Riders Republic, qui est une nouvelle licence, encore une fois, d'Ubisoft, et qui vont lancer ça au même moment que la nouvelle génération de consoles. Ce jeu est développé par les studios d'Annecy, et voilà, ce sera une espèce de hub social où les joueurs seront entourés d'autres riders, donc que ce soit la motocross, le ski, le vélo, le snowboard, il y aura plein de compétitions comme ça. Ça me faisait penser à un autre jeu qui était sorti il y a un petit moment sur le ski qui s'appelait Steep. Donc pourquoi pas savoir que il y aura des reconstitutions de terrain réel, notamment à travers de courses avec 50 joueurs sur PC et les nouvelles consoles contre seulement 20 joueurs sur Xbox One et PS4. Donc le jeu sortira le 25 février 2021 sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Stadia et sur PC en exclusivité sur l'Epic Games Store, Ubisoft Store et Uplay. Ils ont annoncé également un nouveau jeu Far Cry, mais pas n'importe quoi comme jeu Far Cry, Far Cry en VR. Et ce jeu nous permet de réexplorer l'île fictive de Rook Island, où 8 joueurs sont capturés par la junte militaire menée par le charismatique et terrifiant Vass. J'ai pas plus de news là-dessus. Donc en même temps, ils ont décidé d'annoncer quelques DLC pour Watch Dogs Legends, The Crew, Ghost Recon Breakpoint, For Honor, The Division 2, Rainbow Six Siege, et voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces annonces?
Alors, t'as tellement balancé que j'ai pas tout retenu, mais alors déjà, le Far Cry 3 VR, attends, mais s'il vous plaît, mon Dieu, ils sont en train d'en faire un tout nouveau, là, autant que le nouveau, ils le passent en VR en même temps, ce serait plus logique que de vous en ressortir le 3, même si le 3 est le meilleur à mes yeux. Autant le ressortir en basique, avec l'option VR peut-être en plus, sinon c'est quand même prendre les gens pour des cons. Et pareil aussi, comme tu disais, avec, c'était quel jeu aussi? Prince of Persia, pareil, t'es en train de te dire, ouais, bon. Donc, de tout ce que t'as balancé, à part juste parce que t'as dit Lionel Acier sur un jeu, ça m'a tilté, mais sinon, ouais, ça n'a pas l'air folichon tout ça.
Ouais, c'est triste parce que, quand même, à une époque, Ubisoft c'était quelque chose et maintenant, c'est assez triste. Alors, moi, honnêtement, il y a deux choses qui m'ont retenu quand même, c'est The Riders Republic, donc parce que bon, c'est un jeu où tu pourras faire plusieurs choses, que ce soit le motocross, le ski, le vélo, le snowboard, c'est quelque chose qui me fait plaisir, même si j'ai l'impression que c'est un peu du recyclé de ce type. Et après, il y a quand même le Immortal Phoenix Rising, et pas que pour Lionel Astier, je trouve que l'histoire c'est assez sympathique, et un crossover entre God of War et les Chevaliers du Zodiac qui peut être sympathique. Surtout s'ils font une petite BO par Bernard Minet, et là je signe tout de suite.
Je pense pas que ce sera le cas, je suis désolé. Mais ouais, non, par contre, ouais, comme ça j'ai appris que For Honor, il faisait encore des DLC, comme quoi ce jeu est encore joué. Alors que dès le début, quand j'ai joué, je l'ai trouvé ça nul, je trouvais ça dingue, c'était affreux. Donc à moins que le jeu maintenant soit plus jouable qu'avant, mais ouais. Donc, ouais, non, il n'y a rien de bien palpitant quoi, dans ce qu'ils annoncent. C'est fou, quoi.
Mais écoute, je te laisse la dernière news, du coup.
Ouais, alors moi, dernière news, c'est une news un peu mélange entre comics et jeux vidéo, parce que ça touchait Blizzard et surtout Overwatch. Alors, pour Overwatch, on est toujours en attente sur la sortie d'Overwatch 2. Par contre, on a eu une annonce très récemment, et même la sortie donc de comics, de nouveaux comics Overwatch. 5 au total, et donc le premier comics est sorti donc aujourd'hui ou hier. Je ne l'ai pas encore lu, mais donc ce premier chapitre, c'est Tracer London Calling. Et donc, surtout, ce qui est sympa, c'est que déjà, avant, ils avaient fait 5 comics qui étaient des issues one-shot qui racontaient l'histoire de plusieurs personnages, et là, visiblement, vu la fin, parce que oui, je connais les derniers trucs du comics sans l'avoir lu, il y a une suite. Donc pour une fois, on a Blizzard qui nous fait un comics entier où visiblement les issues vont se suivre. Et en plus, chose sympa, c'est que ça suit vraiment un peu la logique des comics même de base aux États-Unis, vu qu'on aura un chapitre par mois. Et donc, vu qu'on a Mana Books qui, en France, nous avait sorti les premiers comics one-shot d'Overwatch, nous avait sorti, je crois, ça sur un seul comics, mais qui rassemblait plusieurs mini-aventures. J'espère justement qu'en France, on aura Mana Books qui nous sortira donc ce comics en 5 chapitres, qui sera donc un gros TPB one-shot, qui pourrait être bien sympa. Donc voilà la petite news en attendant d'avoir d'autres infos, surtout moi sur Overwatch 2, parce que je suis un gros fan, et voilà.
Voilà. Alors, c'est vrai que qu'il y ait une espèce de crossover en comics, jeux vidéo, c'est quelque chose qui fait assez plaisir. Mais là, j'ai jamais adhéré à Overwatch.
Ouais, mais après, même le concept de base, on le retrouve souvent maintenant d'avoir des comics. En plus, par rapport aux jeux vidéo, ce qui est sympa, c'est que tu améliores le lore, un peu l'univers d'un jeu, ou quand tu es sur du, par exemple, du WoW, ou quand tu es sur des Overwatch, ou des choses comme ça, où tu es du joueur contre joueur, tu n'as pas trop de place à l'histoire dans les parties et tout. Le fait d'avoir un support pour pouvoir développer toute l'histoire, tout raconter, c'est toujours sympa quand même.
Et ça, c'est par contre, tu as totalement raison, le grand avantage de la chose, et c'est quelque chose que Blizzard sait très bien faire, et ça depuis des années sur Warcraft. Un peu moins sur StarCraft, mais voilà. Ça, c'est par contre que j'ai toute confiance en Blizzard pour sortir quelque chose de qualité.
Oui.
Et sur ce, on va terminer cette émission à deux. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, parler sur les réseaux sociaux de cette petite émission. Si le concept vous plaît toujours autant, si vous voulez nous faire un retour, n'hésitez pas, cela nous fera plaisir. Et voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée, une bonne journée.
Allez, ciao tout le monde.